Tout de suite, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous commencerons ce journal avec la multiplication depuis hier des annonces et autres initiatives de la part du gouvernement en réponse à l'assassinat vendredi dernier de Samuel Paty. Ce matin, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, recevait les patrons France des réseaux sociaux dans le cadre de la lutte contre le cyber-islamisme. Quant à son collègue de l'intérieur, Gérald Darmanin, il a lui annoncé hier avoir demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de fermer la mosquée de Pantin, fermeture qui pourrait être effective demain soir.
Dans votre journal également, le gouvernement qui entend débloquer 200 millions d'euros pour que les aides à domicile puissent bénéficier d'une hausse de salaire d'environ 15%, ce serait à partir du mois d'avril prochain.
Oui, une manière de soutenir les grands oubliés du Ségur de la santé.
Après le vote la nuit dernière de la partie recette du projet de budget pour l'an prochain, invité de la rédaction aujourd'hui.
D'ici une vingtaine de minutes, nous recevrons Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur de ce projet de loi de finances. Enfin, parmi les très nombreuses mesures prises en Europe cette semaine pour tenter de contrer la pandémie, nous nous rendrons en Lombardie, la riche région italienne du Nord qui s'apprête à instaurer un couvre-feu nocturne. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Vous évoquiez les pistes annoncées, avancées par les ministres Marlène Schiappa et Gérald Darmanin. Nous allons nous voir avec notre invité, la juriste Mireille Delmas-Party, ce que peut le droit aujourd'hui face au terrorisme. Est-ce la boussole, une autre boussole qu'il faudrait peut-être suivre et regarder? Nous en parlerons dans une vingtaine de minutes.
Pourquoi et avec quelle complicité, ce matin encore, les enquêteurs continuent d'éclaircir les circonstances de la mort tragique de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie sauvagement assassiné vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine, où une marche blanche est d'ailleurs programmée aujourd'hui en fin d'après-midi. Pour l'heure, une quinzaine de personnes sont toujours placées en garde à vue, dont quatre collégiens soupçonnés d'avoir désigné à l'assaillant qui était l'enseignant, a priori contre rémunération. L'entourage familial du tueur est également toujours interrogé par les policiers, ainsi que le père de la collégienne qui, dans une vidéo, avait appelé à la mobilisation contre Samuel Paty. De même que l'homme qui l'avait accompagné, le militant islamiste franco-marocain Abdelhakim Sefrioui, harangueur charismatique autant que sulfureux et qui, depuis des années maintenant, bien que fiché S, avait pris pour habitude de sillonner la région parisienne en organisant manifestations, prières de rue et autres actions devant des lycées. De son côté, l'exécutif s'est donc lui lancé dès hier dans une vaste offensive sécuritaire, opération de police massive, interpellation et projet de dissolution d'associations musulmanes. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
On se souvient que dimanche dernier, le président Emmanuel Macron avait demandé au gouvernement une réponse ferme afin, disait-il, que la peur change de camp. D'où cette riposte, tous azimuts hier, à coup de perquisition et d'interdiction symbolique, au risque évidemment de laisser transparaître un sentiment, sinon d'impréparation, à tout le moins de précipitation. Qu'en est-il exactement, Pierre? Véritable arsenal répressif ou simple effet d'annonce?
4 jours après le drame et passé l'émotion légitime, Gérald Darmanin est en première ligne. Il est dans son rôle, en saturant l'espace médiatique, en multipliant les interventions radio-télévisées. Il doit montrer que le ministre de l'Intérieur et ses services sont au travail, dans l'action, d'où ces annonces. Fermeture de la mosquée de Pantin, dissolution d'associations, expulsion d'étrangers, fichés S pour radicalisation.
Il y a eu aujourd'hui 34 opérations lancées de police. Elles ont donné lieu à des judiciarisations pour plusieurs d'entre elles. Je voudrais surtout dire que ces opérations de police, elles ont comme but premier faire que la sidération change de camp. Les Français ont été sidérés par la décapitation, par cet attentat islamiste. Et nous devons aux Français que la peur, que la sidération change de camp. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce terroriste, bien évidemment, il est responsable de cet acte absolument ignoble. Mais tous ceux qui l'ont poussé, tous ceux qui ont mis en pâture cet enseignant, doivent être fortement poursuivi et condamné.
La sidération, la peur doit changer le camp, répète le ministre de l'Intérieur sur TF1, formule qui en rappelle une autre, celle de Charles Pasqua. Il faut terroriser les terroristes. C'était en 1986. Paris était alors confronté à une vague d'attentats. Aujourd'hui, par ses mots, par ses opérations de police et administratives, Gérald Darmanin veut faire passer un message à l'opinion publique, celui d'un État fort qui ne tremble pas. C'est également un message envoyé à l'opposition de droite et d'extrême droite qui accuse l'exécutif de laxisme et qui rive valises de propositions contre l'islamisme radical et la politique migratoire de la France.
Alors, à cette accélération du combat contre l'islamisme voulu par l'Élysée et mise en musique par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, répond aujourd'hui une autre forme de discours, disons plus prudent, celui du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur l'équilibre à trouver avec le respect de l'état de droit.
Les dissolutions d'associations, expulsion d'étrangers, fermeture de mosquées, toutes ces mesures décidées par le ministre de l'Intérieur se heurtent aujourd'hui au cadre de la loi associations et individus qui ont la possibilité de déposer des recours devant les tribunaux administratifs, devant le Conseil constitutionnel, devant le Conseil d'État. Notre arsenal juridique n'est pas adapté pour agir dans la précipitation, explique ce matin sur l'antenne de France Inter le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti.
Toute la difficulté, c'est justement de savoir comment on aurait pu judiciariser plus tôt. Et j'y travaille. Mais je ne peux pas venir ici avec des mesures et des propositions qui n'ont pas encore été complètement finalisées. Il y a un juste équilibre à trouver entre ce que l'on voudrait faire parfois dans la révolte et ce que l'on peut faire sous l'Empire et sous l'égide du droit.
Sous le coup de l'émotion, nous ne pouvons pas nous affranchir du cadre de la loi, explique le garde des Sceaux, qui rappelle que le Conseil constitutionnel a récemment invalidé une proposition de loi sur la haine en ligne. Éric Dupond-Moretti demande du temps pour élaborer des mesures adaptées. La réponse, elle, est attendue dans les prochaines semaines avec la présentation début décembre du projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains, texte destiné à lutter contre le séparatisme islamique que certains jugent déjà dépassé. Difficile donc de répondre aux défis immédiats de justice, mais aussi de respect des libertés publiques.
Merci Pierre Neveu. J'ajoute que le président Emmanuel Macron présidera, lui, cet après-midi, une séance de la cellule contre l'islamisme et le repli communautaire à Bobigny. Comment trouver le bon arsenal législatif? La question se pose également s'agissant cette fois-ci de la lutte contre la diffusion de messages haineux et notamment de la traçabilité des contenus violents sur les réseaux sociaux. On se souvient qu'il y a 4 mois, le Conseil constitutionnel avait censuré la loi contre la haine en ligne portée par la députée de la majorité présidentielle, Laetitia Avial. L'institution avait alors considéré que ce texte, qui prévoyait de lourdes amendes pour les plateformes qui ne retireraient pas sous 24 heures des contenus problématiques, portait atteinte à la liberté d'expression. Sauf que bien évidemment, la tragédie de vendredi dernier a donc remis le débat sur la table, puisqu'on le sait, avant l'assassinat de Samuel Paty, un terrible engrenage s'était enclenché sur les réseaux sociaux. Alors faut-il pour autant déduire que les plateformes seraient en partie responsable de l'assassinat de Samuel Paty? Je vous propose d'écouter la réponse ce matin chez nos confrères de RTL, de la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa.
Je trouve que ce serait trop simple de jeter des anathèmes et de donner des responsabilités. Le responsable de l'assassinat terrible de Samuel Paty, c'est son assassin. Et c'est ensuite l'idéologie islamiste. Mais cette idéologie islamiste, comment elle se propage? Aujourd'hui, elle se propage beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous avez toute une génération de jeunes qui se sont pas radicalisés en allant dans une mosquée radicalisée ou en faisant une rencontre ou en allant en prison. Ils se sont radicalisés chez eux, tout seul, dans leur chambre, devant un écran de téléphone ou devant un écran d'ordinateur. Donc oui, il y a un moyen, il y a un média, et ce média, c'est les réseaux sociaux.
Voilà, la ministre déléguée à la citoyenneté interrogée ce matin sur RTL. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Il se trouve que depuis ce matin, la même Marlène Schiappa reçoit les patrons France des principaux réseaux sociaux et autres plateformes dans le cadre donc de cette lutte contre le cyber-islamisme. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, Maxime ?
Alors la réunion est terminée, hein. La ministre a reçu pendant 1h30 les représentants des grandes plateformes et des réseaux sociaux pour écouter leurs propositions. Alors aucun n'a fait de déclaration en sortant, mais ils étaient tous présents pour cette réunion pour lutter, je cite, contre le cyber-islamisme. Il y avait les patrons de Facebook France, de Snapchat France, avec des représentants aussi de Twitter, Google, TikTok, Twitch ou encore Wikipédia. Les ministères de la Justice et de l'Éducation étaient aussi représentés, en plus du ministère de l'Intérieur. Alors Marlène Schiappa a d'abord rappelé que l'État agissait, hein, en citant la plateforme Pharos qui a reçu 500 signalements depuis vendredi liés à l'attentat de Conflans. Mais l'État ne peut pas tout. La responsabilité est collective, a ajouté la ministre, s'adressant aux réseaux sociaux, à qui elle a proposé, par exemple, parmi les mesures évoquées, hein, une inversion de la logique de signalement pour que les plateformes fassent mieux remonter et plus vite les contenus terroristes ou haineux. Nous sommes prêts à y mettre des moyens. La ministre a annoncé aussi sa volonté d'un renforcement de la coopération entre police, justice, gendarmerie et les plateformes. peut-être la nomination d'un référent au sein de ces entreprises pour être l'interlocuteur des autorités. En fait, il est surtout question d'aller plus vite dans le retrait des contenus problématiques. C'est ce que proposait la loi Avia que vous évoquiez, Thomas, mais elle a été censurée en juin par le Conseil constitutionnel. On attend donc encore des annonces plus concrètes. Ce matin, il faut le dire, il y a quand même peu de nouveautés.
Merci Maxime Tellier ainsi qu'à Yvan Turc pour les moyens techniques. Et puis pour clore ce chapitre consacré à l'assassinat de Samuel Paty, j'ajoute que l'Assemblée nationale lui rendra hommage aujourd'hui, enfin demain, c'est Emmanuel Macron qui présidera l'hommage national rendu à l'enseignant dans la cour de la Sorbonne.
Vous écoutez France Culture, il est midi 40 et c'est le journal de Thomas Cluzel. Ce qui jusque-là n'était encore qu'une rumeur est désormais une certitude.
Oui, en 1995, le Conseil constitutionnel a bel et bien validé les comptes de campagne de Jacques Chirac et Édouard Balladur, en dépit des nombreuses irrégularités qu'ils comportaient, ou quand les sages auront non seulement minoré, mais aussi dissimulé, voire effacer les infractions commises par les deux candidats. Voilà ce qui ressort des archives de l'institution qui viennent d'être rendues publiques 25 ans après leur rédaction et que la cellule d'investigation de Radio France a pu consulter. Parce que la question se pose parfois de savoir si les personnes âgées ne risquent pas tout autant de mourir du Covid-19 que d'ennui ou de solitude. Le rôle des aides à domicile apparaît aujourd'hui plus que jamais essentiel. Et pourtant, les auxiliaires de vie ne figuraient pas dans le Ségur de la Santé signé par le ministre Olivier Véran avec les syndicats en juillet dernier. Ce qui signifie qu'ils ne percevront pas la hausse de salaire de 183 euros pour les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite publiques et privées non lucratives, pas plus d'ailleurs que de la prime Covid-19 de l'État. Et c'est donc pour corriger en quelque sorte cet oubli qu'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour obtenir une hausse de salaire des aides à domicile doit être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Faut-il pour autant, Adrien, parler de victoire pour les oubliés du Ségur?
Eh bien, les associations d'aide à domicile comme l'UNA ou la DMR saluent ce geste très attendu de la part du gouvernement. Pour autant, les montants, 150 millions l'année prochaine, puis 200 millions les années suivantes, sont loin de les satisfaire. D'ailleurs, on est loin de ce qui a été négocié lors de la conférence salariale qui a eu lieu en début d'année et qui permet d'établir le taux d'augmentation des rémunérations de la branche. Les partenaires sociaux sous la direction du ministère de la Santé avait signé deux accords pour une enveloppe d'augmentation salariale de près de 600 millions d'euros. 200 millions d'euros sont donc acquis. C'est la participation de l'État qui fait l'objet de cet amendement qui passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Reste 400 millions et là, le gouvernement en appelle aux départements qui ont pour charge habituelle le financement des services d'aide à domicile et à qui l'État a déjà demandé de prendre en charge une prime Covid. Encore faut-il donc que tous acceptent encore de mettre la main à la poche, c'est la crainte de Thierry Daboville, le secrétaire général de la DMR.
Nous, ce qui est important, c'est d'avoir une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Parce que si le département ne prend pas en charge les augmentations de salaire et que d'autres le prennent, il va y avoir un différentiel. Les salariés d'un département à l'autre ne peuvent pas être payés différemment. Ça, c'est extrêmement important et on l'a vu avec la crise Covid. Il a fallu aller département par département les solliciter pour avoir cette prime.
Pour le gouvernement, tout doit en tout cas être réglé pour le mois d'avril 2021. Une largesse de calendrier préoccupante pour les associations d'aide à domicile qui sont témoins depuis la signature du Ségur en juillet d'un exode de leurs salariés vers les hôpitaux et les EHPAD, là où les augmentations salariales sont déjà en train d'être distribuées.
Merci Adrien Toffolet. Nous évoquions un peu plus tôt dans journal, les discours de haine et autres contenus violents diffusés sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement figure aujourd'hui parmi un catalogue de cyberattaques dont il paraît bien difficile, voire impossible, de dresser une liste exhaustive. Parmi elles, on trouve bien sûr des vols massifs de données, sans oublier le blocage à distance d'ordinateurs qu'ils appartiennent à des particuliers, des entreprises ou des administrations. Enfin, existent des attaques dont généralement ni les victimes ni les agresseurs ne font la publicité, de véritables histoires d'espions. Alors, il se trouve qu'hier, 6 agents du renseignement militaire russe ont fini malgré tout par être inculpés aux États-Unis. Ils seraient à l'origine de milliers de piratages informatiques visant tout à la fois des hommes politiques, des infrastructures stratégiques et même, Élise Delève, les Jeux Olympiques.
Cette série d'attaques, qui a duré 4 ans, est la plus destructrice et la plus perturbante jamais vue selon la justice américaine. Pour les États-Unis, aucun pays n'utilise ses armes informatiques de manière aussi nuisible et irresponsable que la Russie. Les 6 agents du renseignement, âgés de 27 à 35 ans, auraient piraté des intérêts partout dans le monde. D'abord en Ukraine, notamment en conflit avec la Russie sur la Crimée, une attaque contre le réseau électrique a privé la population de chauffage en plein hiver 2015. Ensuite, la France. Les accusés auraient mené 7 attaques visant une centaine de personnes, souvent membres du parti En Marche d'Emmanuel Macron. Nous sommes en 2017 et des emails piratés permettent aux hackers de mettre la main sur des milliers de documents internes de l'équipe de campagne du futur président, documents diffusés ensuite sur Internet. La même année, un réseau d'hôpitaux de Pennsylvanie aux États-Unis est attaqué, 1 milliard de dollars de pertes. L'année suivante, en 2018, les pirates s'en seraient pris aux Jeux Olympiques de Corée du Sud, JO auxquels la Russie n'a pas pu participer, accusée de dopage. Les hackers auraient réussi à perturber la cérémonie d'ouverture. Ces 6 inculpations n'arrêtent évidemment pas les piratages. Hier, le Royaume-Uni a à son tour accusé les services de renseignement russes. La cible, selon Londres, les organisateurs, les services de logistique et les sponsors des JO de Tokyo, JO reportés à 2021 à cause de la pandémie.
Avec plus de 8000 morts recensés en seulement 7 jours, l'Europe, où le seuil des 250 000 décès a été franchi dimanche dernier, connaît actuellement son plus lourd bilan sur une semaine depuis le printemps dernier, conduisant de nombreux pays à multiplier les mesures sanitaires. Dès demain, l'Irlande deviendra le premier pays de l'Union européenne à reconfiner toute sa population, et ce durant les 6 prochaines semaines. Vendredi, c'est le Pays de Galles qui fera un bond de 7 mois en arrière. La province britannique entrera à son tour en confinement pour 2 semaines. En Belgique, là-bas, un couvre-feu est entré en vigueur hier et depuis minuit, cafés et restaurants sont contraints de rester fermés pendant 1 mois. En Espagne, la ville de Burgos rejoindra cette nuit la liste de plus en plus longue des municipalités partiellement bouclées. En Suisse, le pays d'Europe où la maladie a progressé le plus vite, la semaine passée, le masque devient désormais obligatoire dans tous les lieux publics fermés. Enfin, en Lombardie, la riche région italienne du Nord s'apprête à instaurer jeudi un couvre-feu nocturne, une première depuis la fin du confinement dans la péninsule.
Retour en France, où l'Assemblée nationale a voté la nuit dernière la partie recette du projet de budget pour l'an prochain.
Oui, voilà qui met donc fin à 2 semaines de vives discussions dans l'hémicycle, notamment autour de la fiscalité écologique, mais aussi de la baisse sans condition des impôts de production pour les entreprises. Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'Assemblée nationale aux côtés de notre invité Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur du budget. Mais avant toute chose, Marie, peut-être faut-il tout d'abord préciser donc sur quel texte très exactement les députés se sont mis d'accord la nuit dernière.
Alors la décision la plus forte de ce volet recettes, c'est la baisse des impôts de production pour les entreprises à hauteur de 10 milliards d'euros par an. Cette mesure est présentée comme un élément du plan de relance, mais elle était dans les tuyaux avant la crise du Covid-19. Ces impôts de production sont effectivement plus lourds en France que chez nos voisins, et leur suppression était une très vieille revendication des industriels français. Alors est-ce que cet allègement d'impôts va inciter les entreprises à rester en France, voire à y relocaliser leurs activités? Une partie de l'hémicycle, la partie gauche, en doute. Vous nous prenez pour des crétins, a même lancé François Ruffin des Insoumis dans l'hémicycle. Le manque des contreparties associées à ces baisses d'impôts, ce fut l'un des débats importants et vraiment vifs de ces 15 derniers jours. Mais le gouvernement a renvoyé, avec l'accord des députés En Marche, ces discussions à la deuxième lecture du projet de budget. Renvoyé aussi à la deuxième lecture, la question du malus pour les voitures de plus de 1,8 tonnes. C'est notamment une demande de la Convention citoyenne pour le climat. Parmi les dispositions que les députés ont pu infléchir, il y a notamment un changement de seuil pour que les PME qui bénéficient d'un taux réduit sur les sociétés soient plus nombreuses. Poursuivre les allègements d'impôts et les accentuer coûte que coûte, c'est donc rester aussi la philosophie des parlementaires de la majorité. Les amendements prévoyant notamment une contribution exceptionnelle des plus aisés ont été rejetés.
Et on rappellera qu'un vote solennel sur ce texte aura lieu cet après-midi. Pour continuer donc d'évoquer cette question, je le disais, invité aujourd'hui de la rédaction, Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne, en direct et en duplex du Palais Bourbon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Toujours à vos côtés pour vous interroger, Marie Vienneau. Une première question, monsieur Saint-Martin, en tant que rapporteur de ce projet de loi de finances. Vous avez déclaré que réclamer des contreparties aux entreprises en échange notamment de la baisse des impôts de production serait absurde. Pour quelles raisons ?
Oui, je pense que ça n'a pas de sens d'exiger avant que des entreprises puissent relocaliser des emplois industriels des quelconques engagements. En fait, il faut essayer de prendre ce sujet de la façon la plus rationnelle possible. Nous avons une fiscalité sur les entreprises avant qu'elles fassent des bénéfices qui est la plus importante au monde. Nous sommes le seul pays à avoir créé ce qui s'appelle les impôts de production. C'est pour ça que nous avons subi des délocalisations et notamment dans le secteur industriel depuis tant d'années, depuis tant de décennies. Ce que nous faisons là, ce n'est rien d'autre qu'y mettre fin pour avoir un environnement fiscal à peu près cohérent par rapport à nos voisins. Et je rassure chacun, la France ne devient pas un paradis fiscal, nous restons quand même avec une fiscalité plus importante que les autres. Mais nous nous mettons dans des conditions pour que, effectivement, des entreprises puissent créer de l'emploi en France, puissent relocaliser des emplois qui sont partis depuis si longtemps. Je pense que chacun comprend assez facilement cette notion de comparaison dans une économie ouverte, dans une économie mondialisée, pour que les entreprises puissent s'installer sur notre territoire.
Alors, les contreparties, restons un peu sur ce sujet, demander aux entreprises en échange des milliards d'aides ou de subventions ou de baisses d'impôts. Donc, c'est un débat qui a commencé déjà pendant le confinement. À chaque fois, on dit, on verra ça plus tard. Au moment de présenter le budget, le ministre des Finances disait, ce seront les députés qui amélioreront le texte. Finalement, Olivier Dussopt, ministre des Comptes Publics, renvoie ça à la deuxième lecture. Alors, est-ce que c'est pas une façon de noyer le poisson, de renvoyer toujours cette discussion à des discussions ultérieures?
Alors, permettez-moi de vous corriger, ce n'est pas la seconde lecture, la seconde partie, c'est-à-dire que c'est plutôt rattaché aux dépenses de l'État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que les contreparties ne doivent pas être liées à une baisse d'impôts, mais elles doivent être liées à de la subvention d'État. En deuxième partie, nous allons voter du subventionnement d'État pour que les entreprises investissent, par exemple, dans le verdissement de leur outil de production. Elles vont investir pour mieux numériser leur outil de production. Et face à ces aides publiques, effectivement, nous exigerons des contreparties pour que les entreprises aient des indicateurs de performance sur la transition écologique, mais pas que. Aussi pour qu'elle soit plus performante dans le dialogue social, pour que l'avis du CSE au sein des entreprises soit plus puissant et soit plus considéré, pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit davantage respectée. Bref, toute une série d'indicateurs que nous allons proposer aux parlementaires pour qu'ils puissent le voter, et ce sera ça la contrepartie. Et c'est beaucoup plus pertinent de demander à des entreprises...
Une contrepartie vraiment obligatoire, ou obligatoire, disons juste un scoring, on vérifie et puis on donne les aides d'abord.
À partir du moment où on conditionne dans la loi, ça devient des contreparties obligatoires. Mais j'insiste bien sur la différence entre conditionner des aides publiques, des subventions, qui sont finalement au choix de l'entreprise, ou alors conditionner des baisses d'impôts pour tous, qui finalement freinerait la dynamique d'attractivité de notre pays. Elle est là la différence. Donc c'est pas tant un sujet de première ou deuxième partie et de renvoyer à plus tard, c'est de le faire au bon moment pour pouvoir justement accélérer la relance et ne pas la freiner.
On voit bien dans les contreparties que vous évoquez, il y a donc l'égalité salariale, il y a une façon de respecter le dialogue social ou pas. Finalement, la question des emplois, du maintien des emplois, ça, on ne peut pas le garder.
Vous savez, l'emploi, je crois pas que ça se décrète. Vous pouvez demander à une entreprise d'avoir X milliers d'emplois à partir d'un certain moment, s'il n'y a pas l'activité, s'il n'y a pas la croissance, s'il n'y a pas le carnet de commandes, elle ne peut pas les inventer, ces emplois-là. Vous savez, la meilleure conditionnalité à l'emploi, c'est de donner les conditions de croissance de notre pays. C'est très franco-français, ce débat, que nous avons. Nos voisins allemands, espagnols, italiens ne débattent pas du tout du sujet de la conditionnalité à l'emploi. L'emploi, ça se crée quand vous avez des entreprises qui marchent, qui fonctionnent. Et les syndicats sont les premiers à le reconnaître. Vous demandez à Laurent Berger quelle est la meilleure conditionnalité à l'emploi, il va vous répondre que c'est la croissance d'activité d'une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise qui croît, c'est une entreprise qui a besoin d'embaucher pour pouvoir justement répondre à des besoins de commandes. Et donc, elle est là la seule bonne conditionnalité, c'est-à-dire donner les vraies conditions de croissance d'investissement dans notre pays.
Alors, vous avez cité Laurent Berger, c'est peut-être pas l'avis de Philippe Martinez de la CGT. Alors, passons à une autre question, celle du malus pour les véhicules lourds. Donc, c'est une demande de la Convention citoyenne sur le climat. La semaine dernière, vous avez adopté un amendement pour davantage taxer les achats de véhicules lourds qui polluent donc plus. Un autre amendement finalement va être déposé pour corriger cela. Est-ce que vous pouvez nous éclairer finalement sur quelle est votre position à vous ?
Alors, ma position à moi, c'est qu'il faut faire attention à ne pas rajouter de la fiscalité à la fiscalité en permanence. Nous avons dans le texte voté le malus écologique, c'est-à-dire que les particuliers qui vont acquérir des véhicules très polluants auront des malus beaucoup plus importants. C'est-à-dire que nous incitons à l'acquisition de véhicules de plus en plus propres, puisque de l'autre côté, il y a un bonus et il y a même une prime à la conversion. Le malus au poids, qui est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, demain, peut éventuellement être une bonne idée si ça ne vient pas, c'est-à-dire pénaliser notre industrie automobile française. Donc il faut vraiment que ce soit sur les très gros véhicules, par exemple à plus d'une tonne 8, c'est-à-dire les très gros 4x4 qui sont très polluants, ça peut effectivement s'entendre. Il faut aussi le faire de façon assez intelligente, parce que si vous regardez les amendements que nous avons eus la semaine dernière, ce sont des amendements qui n'enlevaient pas les batteries, par exemple du poids sur lequel est calculé le malus. C'est-à-dire que vous prenez une Peugeot 3008 hybride, elle est plus lourde qu'une Peugeot 3008 thermique. Ça serait dommage de la pénaliser financièrement alors qu'elle est plus respectueuse de l'environnement. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour l'instant un avis défavorable qui a été prononcé lors des débats. Mais en seconde partie, il y aura effectivement un amendement du gouvernement qui viendra repréciser cela avec davantage de cohérence par rapport à la performance écologique de ces véhicules.
Alors en moins d'une minute, juste pour finir, que dites-vous à ceux qui disent que ce projet de budget pour 2021 est quelque part déjà dépassé, puisque toutes ces prévisions ont été construites avant la confirmation de la seconde vague de l'épidémie?
Toutes les prévisions macroéconomiques sont extrêmement fragiles depuis le début, et puis le début de cette crise, ça le sera encore pour de longs mois. Moi, mon propos, c'est le suivant. Tant que la crise sanitaire n'est pas définitivement derrière nous, toute prévision économique restera susceptible de tout modifier, d'être revotée. Et c'est tout à fait normal, puisque la crise économique dépend de la maîtrise de la pandémie. Donc, tous les chiffres que nous avançons sur la croissance, sur la récession, sur le déficit sont évidemment susceptibles d'être revus régulièrement.
Et ce sera le dernier mot. Merci Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne, d'avoir répondu à notre invitation en direct et en duplex du Palais Bourbon. Merci également à Marie Viennot ainsi qu'à Arthur Dumont pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi de l'Aquitaine à la Manche et la Belgique. Une perturbation apportera un ciel couvert et pluvieux, tant plus sec sur l'est du pays, mais sous un ciel voilé en fin d'après-midi restera encore bien lumineux. Sur les Alpes, PACA et la Corse, quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 24 degrés. Enfin, l'approche de la tempête Barbara, notez que 4 départements du sud-ouest ont été placés en vigilance orange, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège. Des vents violents entre 100 et 200 km à l'heure y sont attendus dans la soirée. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.